pensée critique.
Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique.
Un podcast à seconde vue.
Bonjour chers auditrices et auditeurs, c'est Pierre de l'association À Seconde Vue. Bienvenue dans Pensée Critique. Cet épisode est la deuxième partie de notre entretien avec Florian Kova, chercheur en philosophie à Genève. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, nous vous invitons à le faire dès maintenant pour une meilleure compréhension de cet échange. Elle est disponible sur votre application de podcast et sur notre site asecondevue.fr. Nous vous mettons le lien en description. Bonne écoute! Je vous propose qu'on passe à la partie suivante, où là on va parler donc d'esprit critique, mais en lien avec la morale et le libre arbitre. Est-ce que former à l'esprit critique, c'est former à la liberté, ou est-ce que au contraire, c'est orienter et influencer les consciences?
Alors c'est quelque part, c'est un peu les deux. Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pour ça qu'il y a une sorte de dilemme, si vous voulez. Alors en lien avec ce qu'on a dit avant, il y a vraiment cette idée que... Tout le problème de la question de la liberté, comme je vous dis, il y a un sens très fin de liberté, c'est juste faire ce qu'on veut, et dans ce cas-là, c'est croire la première chose qui nous vient à l'esprit sans que personne vienne nous dire « crois pas ça ». Alors c'est sûr que dans ce cas-là, former l'esprit critique, un peu, c'est un peu pousser les gens à dire « est-ce que tu es sûr que tu crois ce que tu devrais croire ?» Et un côté un peu genre empêcheur de tourner en rond, dans un sens, il y a une sorte de limitation de la liberté. Mais comme je vous ai dit, il y a l'idée que finalement, la liberté, c'est pas toujours faire ce qu'on veut, le caprice à première vue. Un exemple classique en philosophie sur la liberté, c'est de dire, voilà, si j'ai une sorte... Alors imaginons que j'ai jugé rationnellement que ce serait mieux d'arrêter de fumer, et puis voilà, là j'ai envie de fumer, je me remets à fumer. Il y a un sens dans lequel les philosophes disent, bon là, vous remettant à fumer, vous avez fait ce que vous aviez envie, mais vous n'étiez pas complètement libre, en fait. Vous étiez, en fait, poussé à agir de cette façon, par votre addiction, par des causes mécaniques qui sont indépendantes de votre contrôle. Et là, pour le coup, la vraie liberté, ça aurait été d'agir selon ce que vous avez jugé mieux. Donc ça, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure, hein, c'est une définition de la liberté qui est un peu plus exigeante en termes de... On est libre quand nos actions, elles répondent, elles sont en lien, elles découlent de ce qu'on juge être mieux rationnel. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'une personne est d'autant plus libre qu'elle est capable de tenir ses résolutions, d'agir selon sa conscience. Et l'idée, c'est qu'on peut dire, dans cette perspective-là, on peut dire que, de la même façon qu'en entraînant quelqu'un à ne pas céder à ses pulsions, on la rendrait plus libre. Voilà, en aidant une personne à ne pas céder à son envie de cigarette, on la rendrait plus libre, parce qu'elle pourrait tenir sa résolution de ne pas fumer. On peut dire que l'esprit critique a une dimension comme ça. Si on considère que une partie de l'esprit critique, c'est prendre conscience un peu des travers, des automatismes, des influences extérieures qui pèsent sur nos jugements, pour les examiner de façon rationnelle et tenter d'y résister de façon à croire uniquement ce pour quoi on a une bonne raison, vous voyez en quel point, finalement, c'est l'équivalent pour le monde intellectuel de ce qu'on a fait pour le monde de la décision. Hein. Mm-hmm. C'est de dire qu'il y a un niveau de liberté qui est supérieur à croire le premier truc qu'on a envie de croire et à croire ce qu'on juge ce qu'on juge avoir des bonnes raisons de croire. Hein. Et dans ce cas-là, on peut dire que ça nous amène même la liberté, puisque ça peut nous... Ça nous rend plus indépendants de choses qu'on ne contrôle pas, comme des biais cognitifs, des mécanismes, mais aussi de différentes formes de propagande, d'influence sociale, etc. Donc dans ce cas-là, il y a l'idée que c'est une école de liberté, si vous voulez, il y a un côté un peu plus libre. Mais, comme petite antithèse quand même, parce que sinon on n'est pas assez en philosophie, comme on en a discuté aussi tout à l'heure, il y a cette idée que finalement, en éduquant l'esprit critique, on pousse une certaine vision du monde, un certain système de valeurs dans lequel c'est bien de juger rationnellement. Et les gens n'ont pas forcément envie d'avoir ce système de valeurs-là. D'ailleurs, clairement, des parents ne seraient peut-être pas d'accord qu'on pousse ça sur leur enfant, qui préféraient d'autres systèmes de valeurs avec d'autres façons de vivre. Et donc, c'est là qu'il y a, je pense, presque une tension. Quoi. Je pense qu'effectivement, d'une certaine façon, il y a un système de valeurs implicite dans l'esprit critique. Comme j'ai dit, l'esprit critique, ce n'est pas juste un ensemble de compétences, hein, c'est aussi un certain sort de goût pour la rationalité, la vérité. Et voilà, ça oriente vers une certaine vision du monde et un certain système de valeurs.
Et bien justement, est-ce qu'il y aurait un moyen d'enseigner l'esprit critique sans transmettre cette certaine vision morale du monde ?
D'une certaine façon, je pense que c'est oui, dans le sens où c'est souvent comme ça que l'esprit critique est enseigné. Oui. Comme je dis, il y a une partie de l'esprit critique, ça va être des connaissances sur les biais, ça va être des compétences en argumentation, ça va être des compétences en raisonnement. finalement, toutes ces choses-là, elles peuvent être transmises, je pense, sans présupposer un certain système de valeurs, quoi. Ce qui amène à certains problèmes, par ailleurs. Je pense même que dans un certain cas, ça va, le cours d'esprit critique est plus libre dans ce sens-là que d'autres, hein, dans l'idée, toute opinion peut être soumise à l'esprit critique, et on peut utiliser l'esprit critique dans un sens comme dans un autre, si c'est juste des compétences argumentatives, reconnaître les arguments, c'est neutre. Mais comme je disais, la question c'est de savoir, est-ce que ça suffit pour l'esprit critique? Par exemple, imaginez que vous avez fait un cours d'esprit critique à vos élèves, ils ont compris les biais cognitifs, ils ont compris comment appuyer dessus, comment ne pas appuyer dessus, ils ont appris à argumenter. Qu'est-ce qui empêche votre élève de se dire, bon, finalement, je vais utiliser toutes ces choses-là que j'ai appris pour devenir quelqu'un qui ne se soucie pas de la vérité, mais qui va être un très bon avocat, très bon rhéteur, qui va utiliser tous ses instruments et toutes ses compétences, surtout pour faire croire aux autres ce qu'il a envie, quoi. Parce que là, vous avez vraiment enseigné l'esprit critique. Il y a l'idée que, oui, on peut enseigner une partie qui est neutre, mais est-ce que cette partie-là, elle va avoir les effets qu'on attend d'esprit critique, ou est-ce qu'elle peut pas même avoir des effets un peu, finalement, un peu contre-productifs, quoi.
Donc, dans tous les cas, enseigner l'esprit critique doit forcément venir avec une certaine vision morale pour éviter... Là, ça peut être un avocat, mais ça peut aussi être des choses plus graves, comme un gourou ou...
Disons que le problème, c'est que ça devrait, mais en vrai, c'est cette partie-là de l'enseignement à l'esprit critique qui est très difficile à implémenter dans un cours. Comment est-ce que vous communiquez un peu cette... Il faudrait qu'il y ait un moyen de réussir à cultiver un peu ce goût du vrai, de la rationalité. L'idée, c'est de... Alors, beaucoup proposent de donner des modèles. Par exemple, pour un film que j'aime bien diffuser en classe, je ne sais pas si vous savez, c'est 12 hommes en colère, 12 angry men, ça vous dit quelque chose. Il y a vraiment cette idée que, bon, il y a une personne qui essaye de pousser les gens à se dire, voilà, peut-être est-ce qu'on a assez de preuves. Puis c'est une figure assez inspirante, finalement. Oui. Mais est-ce qu'il y a des moyens... C'est très dur de... Alors, il y a des gens qui proposent de faire ça en disant l'enseignant comme modèle qui doit inspirer ses élèves, mais en tant qu'enseignant qui a des élèves, je veux dire que c'est rare qu'on les inspire beaucoup, quoi. En tout cas, ça se voit pas beaucoup en classe. Je suis pas sûr, voilà, je pense que de toute façon, l'attitude générale des élèves par rapport aux enseignants passé un certain âge, c'est pas de l'inspiration, quoi. C'est plus un rapport plus conflictuel. Mais voilà, c'est la partie pour laquelle on sait comment enseigner les biais cognitifs. On peut se battre sur des détails, mais on voit à peu près comment ça se fait. C'est des choses factuelles, on peut donner des exemples, on peut demander aux élèves de faire des exercices où ils jouent sur ces biais. Mm-hmm. On sait faire des exercices de raisonnement, de l'argumentation en classe, mais inspirer des valeurs chez eux, c'est beaucoup plus difficile.
Est-ce qu'on peut reprocher moralement à quelqu'un de croire en quelque chose de faux s'il n'est pas familier avec l'esprit critique, la démarche critique?
Déjà, on peut même enlever la dernière partie de la phrase pour commencer, parce que c'est tout un débat en philosophie de savoir si on peut condamner les gens pour croire quelque chose de faux. C'est assez marrant, c'est un débat qu'il y avait déjà finalement au Moyen-Âge, hein. Est-ce qu'on peut condamner les gens qui ne croient pas en Dieu pour le fait de ne pas croire en Dieu, parce qu'a priori ils vont en enfer quand même. Une des réponses qu'on trouve dans la théologie, c'est de se dire, mais en fait c'est parce que la croyance ne dépend pas uniquement de choses intellectuelles, ça dépend aussi de désirs personnels. Et il y avait l'idée que les preuves de Dieu sont là, si les gens n'y croient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire, parce que leur âme est corrompue, donc ils peuvent être blâmés. Si on va sur des trucs plus concrets, c'est aussi des choses, par exemple, imaginons que quelqu'un cause un accident de travail parce qu'il ne savait pas qu'il ignorait une certaine information. Est-ce qu'il peut être blâmé pour ça? La question, c'est déjà, est-ce qu'il avait les moyens de le savoir? Est-ce qu'il pouvait le savoir, déjà? S'il n'y avait aucun moyen de le savoir, il ne faut pas le blâmer d'avoir une opinion fausse. Est-ce que c'était raisonnable d'attendre de lui qu'il le sache? Ça faisait partie de ses tâches habituelles. Est-ce que c'était quelque chose qu'il est censé faire en général, prendre des informations? Il y a tout un tas de gradations comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de réponse très classique.
Là, après, c'est plus une question de... Est-ce qu'on peut moralement reprocher l'ignorance de quelqu'un? Là, c'est plus quelque chose de... Au-delà de l'ignorance, c'est là vraiment de croire en quelque chose.
Ouais. Alors, ce serait juste l'ignorance, là.
Ce que vous expliquez, c'est plus lié à l'ignorance de la personne.
Oui, on pourrait faire... C'est un peu la même chose avec une croyance, quoi, si vous voulez. Mm-hmm. Mais là, on pourrait imaginer, je sais pas, par exemple, prenons un praticien de santé qui se base sur des informations qui ont un peu été erronées et il croit que tel traitement est le plus adapté alors qu'on s'est été mis à jour et on voit qu'il y a tel problème avec des problèmes avec ce traitement-là, il faudrait en donner un autre. Est-ce qu'il peut être coupable de croire que ce traitement est le plus adapté, quoi, alors que c'est plus le cas?
La loi dirait que oui, parce qu'il est tenu de se tenir
c'est ça.
À jour.
Comme je disais, ça dépend de ce qu'on attend de lui. Apparemment, on attendrait d'un... C'est une attente légitime qu'on a par rapport à un professionnel de santé qui met ses croyances à jour. Donc même là, si sa croyance, effectivement, si sa croyance est fausse, l'idée, c'est qu'il y avait les moyens de savoir que la croyance était fausse, parce que l'information est là quelque part, elle est accessible, et ça fait partie de son rôle de s'informer régulièrement. Mais voyez, par exemple, si c'était quelqu'un dans la rue qui avait cette même croyance fausse-là, là, on se dirait, bon, il a peut-être entendu quelque part, est-ce que ce serait aussi, aussi blâmable, quoi? Donc, il y a un sens où ça soulève tellement de questions philosophiques, c'est une question infinie, par exemple. Déjà, une objection qui est faite, des fois, c'est de dire, mais en fait, nos croyances, c'est pas nous qui choisissons de croire. Hein. C'est pas un jour, on prend la décision, c'est, je sais pas, j'ai eu assez de preuves, je décide de croire ça. En général, une croyance, c'est quelque chose qui s'implante pleinement de façon plutôt automatique, inconsciente. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait l'effet d'une décision? En général, une façon plus neutre de se dire, c'est pas se demander si on est directement, si le fait même d'avoir une croyance fausse est blâmable, mais c'est de se dire, voilà, est-ce que la personne a, par contre, ce que la personne peut contrôler, c'est le fait d'aller s'informer, le fait de prendre des informations, le fait de remettre en doute ses connaissances. Ces choses-là, elles sont par remettre en doute dans le sens vérifier. Ces choses-là, elles sont sous son contrôle, quoi. Et donc, encore une fois, ça va dépendre du contexte, quoi. Si, imaginons quelqu'un qui croit quelque chose, tout le monde croit cette chose-là dans sa société, toutes les sources quasiment lui disent que c'est ça autour de lui. Cette personne, elle n'a pas spécifiquement de raison d'aller vérifier. Après, quelqu'un qui va croire une certaine chose pour laquelle il y a peu de raisons, en plus quelque chose, par exemple, on imagine quelque chose de grave, qui a des conséquences médicales, par exemple, croire que tel traitement ne fonctionne pas alors que son médecin lui a dit de prendre ce traitement. Dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'effectivement, le fait qu'elle choisisse de s'arrêter sur cette opinion sans aller plus loin, sans aller chercher d'autres choses, ça peut être des choses qui relèvent de son contrôle, et elle pourrait être blâmée pour ça, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de conclusion générale, on va dire, c'est très compliqué.
En gros, connaissance de démarche critique ou pas, si je devais résumer ce que vous venez de dire, en fait, ça dépend du contexte et de...
Voilà, j'aime pas trop les réponses en termes de « ça dépend », mais pour le coup, je vois pas comment y échapper, c'est vraiment « ça dépend », parce que... je pense que, voilà, si c'est une personne qui était dans un cas où il y avait plein de signaux qui disaient que ça vaudrait la peine d'être vérifié, effectivement, c'est embêtant si la personne s'entête dans cette croyance sans aller consulter, quoi. Là, on peut la blâmer dans le sens où sa démarche, elle relève clairement du fait qu'elle a envie de croire ça.
Et elle refuse.
Elle refuse toute autre chose, quoi.
Consciemment, mais ouais. La question revient, c'est est-ce que si cette personne ne connaît pas du tout le fonctionnement de la démarche critique, est-ce qu'on peut lui reprocher de refuser, justement, d'aller plus loin? Puisque c'est la base de...
Alors, ma réponse, ce serait que personne ignore totalement... Alors, c'est pas une blague. C'est quelque chose... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le fondement de la démarche critique, mais on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. La plupart des choses qu'on connaît, on les connaît grâce à d'autres. Et, par exemple, je ne sais pas si vous voyez qui est Hugo Mercier, c'est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la croyance et la confiance aux autres. Ce que dit Hugo Mercier, qui me paraît à peu près adéquat, qui est en adéquation avec les résultats de la psychologie, c'est que personne ne naît complètement crédule, naïf, dans le sens où on est des êtres qui avons évolué pour vivre en société et échanger des informations, et c'est clair que dans une société, il y a toujours des gens qui vont essayer de tirer avantage des autres. Et quelque chose qui est assez défendu dans cette littérature-là, c'est que très tôt chez les enfants, il y a ce qu'on appelle la vigilance épistémique, c'est que très tôt les enfants développent la capacité à se dire, voilà, il y a certaines personnes à qui il ne faut pas faire confiance, certaines personnes à qui je ne peux pas faire confiance. Donc même si effectivement, l'idée c'est très petit, la plupart, quasi-totalité des enfants prennent en compte des indices pour savoir quelle personne croire, quelle personne pas croire. Est-ce que c'est des questions sur lesquelles il faut demander à des gens, et sur lesquelles des gens pourraient savoir, ou est-ce que c'est des questions sur lesquelles c'est mieux que ce soit moi qui tranche. Par exemple, vous verrez aucun enfant qui posera la question. Voilà, si un enfant il voit, je sais pas, un verre sur la table, il va pas demander à ses parents, est-ce que maman, est-ce qu'il y a un verre sur la table, quoi. Il sait très bien que ça suffit que ce soit lui qui le voit pour et que sa mère finalement c'est moins fiable que sa perception directe. Donc on a tous un peu déjà, si par démarche critique on entend un ensemble d'opérations, d'actions qu'on peut entreprendre pour vérifier si ce qu'on croit ou croit croire est vrai ou faux, l'idée c'est qu'en fait on a tous au moins une petite base, quoi. Donc effectivement, l'idée de la démarche critique c'est de s'appuyer sur cette base-là pour aller pousser ces instruments encore plus loin. Mais c'est clair qu'on a au moins une petite base, donc je vois personne qui serait dépourvu de démarche critique. Mais après, on peut prendre des cas très précis. Il y a des choses qui ont l'air très probables pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et en fait, finalement, quelqu'un qui est spécialiste, il peut voir que là, il peut y avoir un problème. Par exemple, on peut penser à des cas en statistique où les gens vont vous dire il y a une corrélation entre ces deux choses. Vous regardez les données, ça a l'air d'une corrélation. Et effectivement, en fait, on peut obtenir cette corrélation de façon totalement artificielle grâce à certains biais, etc. Bon, là, si la personne y a cru, on ne peut pas lui en vouloir. Ça demandait une connaissance un peu spécialisée. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre. Mais si ce qui a manqué à la personne, c'est de faire l'effort minimal, d'aller vérifier si c'était vrai, donc je ne vois pas quelqu'un qui manquerait, alors, peut-être des cas très spéciaux, mais qui manquerait à ce point des bases de la démarche critique, quoi.
Est-ce qu'il y a des situations où suspendre son esprit critique est moralement justifié ? Je pense notamment à certaines situations d'urgence, ou plus largement y entrer à la santé, ou dans une relation de confiance ou de loyauté. Ça recoupe peut-être l'exemple que vous preniez tout à l'heure avec la culpabilité d'un ami.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Bon, on peut prendre un cas qui est très disputé, j'espère qu'on ne tombera pas dessus, mais c'est un cas qui en philosophie soulève des questions. Dès que, par exemple, que quand il y a des accusations de viol, il faut toujours croire la victime. Il y a des raisons pratiques pour ça. Il y a des raisons très claires de toujours croire la victime, dans le sens où la plupart des victimes de viol ne portent pas plainte, sont découragées par le système, la plupart des viols ne sont pas condamnés. Donc ça, d'un point de vue moral et pratique, c'est quelque chose qui justifie, mais d'un point de vue critique, ça n'a pas de sens. Si ce qui nous importe, c'est vraiment la vérité, on devrait dire non, tant que j'ai pas de preuves, je crois ni la victime, ni le présumé coupable. Donc de temps en temps, il y a un peu cette idée que les enjeux éthiques et moraux ne sont pas toujours les proches. Alors on pourrait dire qu'en fait, il n'y a pas de contradiction dans le sens où, comme on a dit, croire, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc en général, quand on dit qu'il faut croire les victimes, ça ne veut pas dire qu'il faut s'efforcer de croire, même si on n'a pas de preuves. Mais ça veut dire s'efforcer de faire comme si il y avait beaucoup plus de chances que la victime soit effectivement une victime, que ce soit une fausse accusation, afin d'éviter un certain nombre de condamnations. Mais ça pourrait être des cas à peu près comme ça. Je ne pense pas que ça demande de taire son esprit critique, dans le sens où la décision d'aller soutenir plutôt les victimes, c'est une décision qui peut être prise sur de bonnes raisons et prise à une réflexion critique.
Je vais donner peut-être un exemple dans le cadre de la santé. Des parents, les deux sont professionnels de santé, d'accord ? Et les deux ont tendance à baser leur pratique sur la science, sur les preuves. Leur enfant, qui est un bébé, a un symptôme quelconque qu'ils ne parviennent pas à expliquer eux-mêmes, et ils ont consulté plusieurs spécialistes, pédiatres, qui eux-mêmes soit n'arrivent pas à expliquer, soit disent c'est rien, il n'y a pas de problème. Mais ils voient, eux, que leur enfant a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et du coup, la situation, ce serait que ses parents se tourneraient vers une alternative à la médecine, homéopathie, micronutrition.
Alors, c'est compliqué dans ce sens où j'ai l'impression. Il y a une façon que je me dis, c'est. Imaginons que la médecine basée sur des preuves ne propose rien. Vous avez une pseudo-science qui propose un truc. Imaginez que vous pensez que, rationnellement, ça a moins d'un pour cent de chances de marcher. Parce que c'est très clair, il y a beaucoup plus de chances que ça soit du bidon. Est-ce que ça ne serait pour autant irrationnel de prendre ça ? Parce que le but ici, c'est pas de choisir ce qui est vrai, c'est de se dire c'est le seul truc qui a une mini-chance de marcher. Donc en gros, ça va demander quels sont les coûts, hein, parce que bon, après, on peut imaginer un cas comme ça, où je veux guérir un symptôme chez mon enfant, la médecine traditionnelle ne propose rien, puis là, on me dit, j'ai l'homéopathe du coin qui me dit, voilà, il y a une granule, on me dit, voilà, je te jure, ça marche. Est-ce que, franchement, le truc le plus rationnel, c'est pas de juste tenter le coup, parce que ça coûte rien, enfin, je veux dire, il va peut-être me vendre la granule 10 balles, quoi, mais... je veux dire, il n'y a pas de risque, ça ne cause pas de retard de prise en charge. Là, c'est très simple, quoi. Donc, dans ce cas-là, ça ne me paraîtrait pas... Ce ne serait même pas pour moi presque... Je pense que c'est quelque chose qui est défendable rationnellement. On peut se dire, il y a vraiment une infime chance que ça marche, mais il n'y a pas vraiment de coût, donc les bénéfices potentiels valent le coup, quoi.
Ce serait une suspension de l'esprit critique rationnel.
Ouais, ce serait un truc comme ça. Enfin, l'idée, c'est que dans ce cas-là, j'ai l'impression que si je refusais de absolument prendre... imaginons que ma compagne me dise « mais on peut tenter le coup », puis moi je m'y oppose vraiment très fort en disant « non, mais de toute façon, c'est des conneries, c'est pas scientifique », est-ce que je serais pas plus en train de défendre une certaine vision du monde que de chercher rationnellement la meilleure situation ? Est-ce que d'une certaine façon, je serais pas en train de confondre l'esprit critique avec la défense d'un certain nombre de positions et d'une certaine vision du monde ? Est-ce que ça a un sens ? Après, bien sûr, le problème, c'est qu'en général, ça ne marche pas comme ça, les trucs de pseudo-science. C'est toujours des trucs qui vont détourner des voies traditionnelles qui, en plus, vont avoir des coûts, peuvent avoir des effets secondaires. Par exemple, si on me dit que la seule façon de sauver mon enfant, c'est de lui faire un régime, je ne sais pas, complètement débile, uniquement à base de viande, sans rien d'autre, il y a forcément des efforts, quoi. Mais voilà, je peux très bien imaginer des cas dans lesquels ce serait effectivement des cas où ce serait rationnel comme le cas dans la pilule, mais par contre rentrer à fond dans des trucs qui vont être très coûteux, qui vont provoquer des risques, là pour moi effectivement on peut considérer ça comme comme un abandon d'esprit critique, mais je pense pas que ce serait un abandon qui serait conseillé, quoi.
La question suivante: peut-on être tenu moralement responsable d'un manque d'esprit critique, par exemple dans le refus idéologique ou l'acceptation aveugle de mesures sanitaires? Elle vient comme un miroir inversé de ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire est-ce qu'à une personne qui refuserait de façon idéologique d'aller vers d'autres thérapies pour un enfant ou peu importe, pourrait être tenu moralement responsable justement de ne pas aller chercher...
Ouais, c'est une question très difficile. Alors on a plein d'exemples dans l'actualité de parents qui font subir des choses à leurs enfants parce qu'ils sont persuadés que c'est la meilleure chose pour eux, qui ne vont pas les vacciner après les enfants vont tomber malades.
La question telle qu'elle est posée, c'est-à-dire peut-on être tenu moralement responsable d'un manque d'esprit critique dans les refus idéologiques ou l'acceptation aveugle de mesures sanitaires, c'est vrai qu'il y a certaines religions ou certaines sectes qui sont directement liées à cette question, à savoir le refus de la transfusion sanguine, le refus de la vaccination.
C'est ça, c'est une très bonne question, en fait. Donc je mentionnais ça parce que j'ai l'impression que notre premier réflexe en tant que public, quand on entend ces choses-là, c'est d'être vraiment indigné, en colère contre ces gens-là. Ce qui a l'air de supposer qu'effectivement, ils sont responsables de leurs actes. Ce n'est pas une sorte de tragédie où ils agissaient en tout à fait bonne foi. Parce qu'on pourrait imaginer des scénarios très simples où les gens prennent des décisions catastrophiques, mais comme ils ne sont pas du tout au courant, il y a un problème. Je n'ai pas imaginé... Imaginez que quelqu'un donne à manger à une autre personne et personne ne savait que cette personne avait une allergie très rare à un aliment et la personne meurt. Là, on ne va pas ressentir de colère, on va dire c'est vraiment trop triste comme histoire, il y en a une qui a tué l'autre sans faire exprès. En quoi ça, c'est différent, par exemple, imaginons des parents qui auraient causé la mort de leur enfant parce qu'ils auraient refusé de vacciner leur enfant aurait chopé la maladie en question. On a l'impression que, enfin, en tout cas, à première vue, on traite ces cas-là différemment, mais ce n'est pas évidemment... Pas clair, évidemment, parce que si les parents étaient vraiment persuadés que le vaccin était mauvais, on devrait dire que c'est un peu le même type d'erreur, finalement. Et c'est assez compliqué, en fait. Je pense que ça... je pense que la question qui est là-dedans, et sur laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que c'est vraiment toujours des erreurs de bonne foi, ou est-ce qu'on a, si on est en fâché, c'est parce qu'on n'a pas, en fait, ça, finalement, le sentiment qu'il y a des motifs ultérieurs pour ces erreurs, que... Voilà, si les parents ont arrivé à avoir ce genre de croyance, c'est pas uniquement sur la base de considérations, de preuves, etc., mais parce qu'il y a d'autres envies, par exemple l'envie d'être différent, l'envie de se sentir meilleur, l'envie de toutes ces choses-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que techniquement...
Je vais prendre l'exemple de la... sans nommer de religion en particulier, mais... Pour le refus de la transfusion sanguine, il me semble que c'est en lien avec le fait que si on reçoit une transfusion, on n'aura pas accès au paradis.
Oui, exactement. Cela.
Donc, un parent qui refuserait une transfusion parce que, pour lui, même si son enfant décède, il aura accès au paradis et donc à une dimension...
Et ceci pour son enfant.
Non, ouais, je parle de son enfant. Ah, oui. Parce qu'il il croira que son enfant, même s'il décède, il se retrouvera au paradis. Est-ce que moralement, on peut lui reprocher
ben, c'est ça que je dis, c'est un cas difficile, parce qu'en général, on considère que quand il y a une ignorance comme ça, c'est un cas de... c'est un cas qui élimine la responsabilité morale, quoi. Mais dans ces cas-là, moi j'ai l'impression qu'on a ce sentiment que c'est différent, parce qu'implicitement, on a du mal à croire que les gens y croient vraiment. On se dit qu'il doit y avoir autre chose derrière, et ça nous permet de les blâmer. Ça nous paraît tellement bizarre d'avoir ces croyances. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de réponses. Techniquement, si au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient vraiment, alors on pourrait se dire qu'ils sont responsables eux-mêmes de leur ignorance parce qu'ils n'ont pas fait les recherches, mais bon, techniquement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, ouais, c'est un cas assez difficile.
Après, il me semble qu'il y a certains pays qui ont légiféré sur la question, hein, qui imposent aux soignants de transfuser des enfants, des mineurs.
C'est ça. Alors, c'est toujours le cas des, voilà, le cas des enfants, c'est ça.
C'est un des rares cas où la vie des responsables, des parents, pourrait ne pas être pris en compte dans ces pays qui ont réglementé la question.
Oui, parce que l'idée, c'est que quand même, l'intérêt de l'enfant doit primer sur les croyances des parents. Mais oui, c'est vrai que ce que je dis, c'est que c'est une question très intéressante sur laquelle je n'ai pas de bonne réponse. Dans le sens où je vous dis, en général, si on se dit que quelqu'un a fait du mal en croyant faire du bien et qu'il avait effectivement fait les recherches nécessaires, hein, il avait les recherches qu'on attendait de lui, comme on l'a dit tout à l'heure, en général, c'est un cas dans lequel ça disculpe la personne. Voilà, il y a eu une tragédie, mais la personne n'est pas coupable. Et c'est dur de trouver la différence entre ces cas-là et le cas, par exemple, de cette religion qu'on ne nommera pas, dans laquelle un enfant pourrait, une personne pourrait décider de ne pas donner de transfusion en pensant que c'est la meilleure chose. Mais ce que je disais, c'est vrai que on n'a pas le même genre d'attitude envers les deux, quoi. Et savoir, c'est la question de savoir est-ce que cette différence, justifiée, c'est un peu comme si on attribuait finalement aux gens qui avaient cette croyance-là le fait que c'est un peu leur faute s'ils ont cette croyance-là, un peu comme la façon que les chrétiens attribuent aux athées le fait que c'est leur faute s'ils ne croient pas en Dieu. Mais c'est pas évident de voir où se trouverait le degré de liberté qui justifierait un peu cette
verdict. Peut-être en sortant de la religion, là, au début des années 2000, il y a eu des études qui ont été avérées falsifiées par la suite, hein, mais qui ont tendu à démontrer que l'autisme était causé par certains vaccins, exactement, qui ont entraîné une très forte baisse de la vaccination dans certains pays. En l'occurrence, pour les parents qui avaient eu connaissance de cette étude à l'époque, est-ce que, du coup, la question se pose dans les mêmes termes? Mm-hmm. Bah, peut-être plus largement, aujourd'hui, on sait donc que cette étude était falsifiée, mais il y a toujours un discours qui tourne autour de ça, et il y a toujours l'auteur de cette étude qui a toujours le même discours et qui continue à avoir une influence sur certains parents. Du coup, pour ces parents-là, est-ce qu'on peut leur reprocher moralement de refuser la vaccination ?
Bah, c'est ça, j'ai l'impression qu'il faudrait distinguer deux cas. Imaginons vraiment, on a le cas d'un parent qui a refusé la vaccination pour son enfant, mais qui changerait d'avis s'il se trouve qu'il était confronté à des preuves, aux preuves qui sont actuelles, à plein de preuves sur l'idée qu'en fait le vaccin n'est pas du tout lié à l'autisme. Là, je pense qu'il ne serait pas responsable. C'est vraiment, il s'est retrouvé dans un truc informationnel particulier. Alors, on pourrait dire, voilà, oui, mais il aurait dû se documenter. Mais en même temps, est-ce qu'on exige la même chose des gens qui font vacciner leur enfant ? Ouais. Pas spécialement. Mais on pourrait imaginer, voilà, quelqu'un... imaginons, par exemple, plus comme les gens qui sont anti-vax vraiment sur Internet. C'est des gens qui, non seulement, ont pu entendre le discours de Wakefield, donc, pour le nommer, mais qui ont ensuite été confrontés à toutes les autres preuves inverses, et qui continue à considérer que la vérité, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on a le sentiment que leur croyance, elle n'est pas due uniquement aux informations qu'ils ont reçues, quoi. Qu'il y a une sorte de quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes qui les pousse à vouloir avoir envie que ça soit vrai. Et donc là, je pense qu'on changerait l'attitude en se disant peut-être qu'en fait, ces personnes-là ne font pas l'effort de bonne foi, quoi. Quelque part, il y a une partie d'eux-mêmes qui choisit de rester aveugle à ce genre de preuves. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne jugerait pas les deux cas de la même façon. Mais toute la question que j'ai, et sur laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que c'est effectivement le cas ? Moi, je quand je discute avec des gens anti-vax sur Internet, on a vraiment l'impression qu'ils sont de très mauvaise foi, que c'est pas juste, on n'est pas juste dans un cas où des gens ont des trucs bons d'un côté, mais on est vraiment sur le cas de personnes qui ont envie que ça, ça soit vrai, qui refusent vraiment d'entendre tout le reste. Mais peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'ils disent psychologiquement, pour eux, ils sont tellement faits que pour eux, c'était clair que c'était les bonnes raisons. Mais, comme dans le cas de beaucoup de croyances, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments non épistémiques, c'est-à-dire les croyances ne dépendent pas uniquement des preuves. C'est aussi des gens qui ont été entraînés dans des dynamiques de groupe, pour qui c'est devenu une cause, qui y trouvent un investissement personnel, une raison de vivre. Et on peut se dire, est-ce que mettre ces choses-là, ces bénéfices qu'ils tirent personnellement du fait de tenir à cette croyance et de défendre cette croyance, au-delà des dégâts que ça pourrait causer, là, on pourrait se dire, voilà, est-ce que là, finalement, ce choix-là qu'ils font, pas forcément consciemment, ça reste quand même pas un choix qui, lui, est immoral. Est-ce que là, il n'y a pas une part de liberté dans le sens où ils choisissent quand même de continuer dans cette voie?
Est-ce que l'exercice de la pensée critique présuppose l'existence du libre arbitre?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle libre arbitre. J'ai distingué plusieurs niveaux de... plusieurs niveaux de liberté jusqu'ici. J'ai dit la liberté, c'est juste faire ce que j'ai envie maintenant. La liberté, c'est faire ce que je juge mieux, qui était un peu ce que juge être le mieux, ce qui était un peu supérieur, un des plus exigeants, dans le sens, c'est pas juste faire ce que j'ai envie, mais vraiment ce qui me semble le meilleur. Donc ça demande de résister à certaines pulsions. On a vu l'idée que voilà, la liberté, c'est pas agir, c'est savoir sur laquelle la base de quoi j'agis, pas juste agir sans être guidé. Et des fois, par libre arbitre, des fois, c'est un terme qui utilise dans plein de sens, on entend un niveau encore supérieur qui est l'idée que mes actions ne seraient causées par rien d'autre, qu'il n'y aurait pas de déterminisme, mes actions n'auraient pas de cause, que je serais un peu une sorte d'être incausé. Bon, je ne pense pas que l'esprit critique, ça requiert libre arbitre dans ce sens-là, mais je pense qu'une des composantes d'esprit critique, ça demande... ça requiert de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on croit quelque chose, donc de faire un retour sur ce sens-là. Et comme je dis, si on définit une forme de liberté comme être la capacité à à être sensible aux raisons, à agir de façon rationnelle et pas juste sur la base d'automatisme et d'impulsion, je pense que le libre arbitre est une forme de liberté du jugement. Pas dans le sens où le jugement ne serait pas influencé, pas dans le sens où il n'est pas de cause, mais dans le sens où il serait déjà un peu plus transparent à lui-même et reposerait plus sur un processus rationnel que sur un processus automatique où il réfléchit.
Et pour rester sur cette question de morale et d'esprit critique, justement, est-ce que l'esprit critique est moralement neutre ou est-ce qu'il porte toujours une responsabilité éthique ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'esprit critique. Si on parle de la disposition, la chose qu'on a, l'esprit critique, comme j'ai dit, ça reste quelque chose qui est utilisable, qui est compatible avec plein de positions. Comme j'ai dit, c'est limité dans le fait que je pense que c'est impossible d'avoir l'esprit critique sans une certaine valorisation de la rationalité et du vrai. Pour moi, il y a vraiment une partie de l'esprit critique, c'est donner ce goût un peu de se dire... voilà, pour moi, quelqu'un qui fait pas d'esprit critique, il aurait moins tendance à se dire, là, je m'en fous si c'est faux, mais c'est rigolo, ou j'aime croire ça. Une partie de l'esprit critique, c'est vrai de se dire, mais en fait, est-ce que c'est pas plus important de se demander si c'est vrai? Donc, dans ce cas, ce serait pas complètement neutre dans le sens où il y aurait une valorisation de la vérité. Mais on peut dire, la vérité en général, ça reste quand même une valeur assez, pas neutre parce que c'est une valeur, mais partagée par beaucoup de gens. Donc, je pense que l'esprit critique en tant que disposition, ça reste quelque chose d'assez neutre. Avec l'exception de ce qu'on a donné tout à l'heure. Alors, il y a l'idée, à mon avis, que c'est clair qu'en soi, l'esprit critique, ça va disqualifier certaines positions, parce qu'il y a certaines positions qui ne soutiennent pas l'examen critique. Pas dans le sens où l'esprit critique est à la base biaisé contre ces positions, mais qu'il y a des positions qui ne tiennent pas bien la route, ne tiennent pas l'examen critique. Je pense qu'il y a un certain nombre de versions de certaines religions, par exemple, tout ce qui serait des religions très... qui iraient beaucoup sur le terrain de la science, quoi. On peut avoir plusieurs versions d'une religion, une qui fait bien la distinction, puis d'autres qui vont tenter d'avancer des théories très bizarres. Cette théorie-là, à mon avis, c'est clair que l'esprit critique est moins compatible avec elle que d'autres versions. Après, il y a la question de savoir, est-ce que la promotion de l'esprit critique en tant que mouvement social, c'est quelque chose qui est neutre? Et je ne pense pas complètement. Comme je disais, comme je disais, il y a plein de visions du monde, de courants qui vont dévaloriser en fait la rationalité, la vérité. Alors pour prendre quelque chose qui n'a pas trop fâché, il suffit de prendre un courant comme, alors en Suisse on en a quelques-uns, l'anthroposophie. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas, mon idée c'est pas juste que l'anthroposophie c'est irrationnel, je le dis c'est rationnel, c'est pas la question. C'est juste qu'à l'intérieur du discours anthroposophique, il y a toute une théorie de dévalorisation de la rationalité. Hein, c'est-à-dire que la raison c'est la part la moins bonne de l'âme, c'est celle qui nous maintient aux choses les plus basses, il faut la dépasser, etc. Donc il va y avoir un certain nombre de conceptions du monde qui vont forcément... être en conflit avec la valorisation de l'esprit critique. Ça, de la même façon, on pourrait imaginer encore une fois des versions de religion, parce que la religion, il y a toujours beaucoup de versions, qui mettent l'accent sur le fait de l'obéissance du aveugle, du fidéisme, du fait de croire des choses, même si c'est irrationnel. Là aussi, ces visions-là, elles vont forcément entrer en conflit avec la valorisation de l'esprit critique, quoi.
Florian, pour terminer notre entretien, il nous semble qu'il est intéressant pour nos auditeurs de prendre conscience que l'esprit critique concerne tout un chacun, y compris des chercheurs qui travaillent de près ou de loin sur ce sujet. Et il me reste donc quelques questions plus personnelles à vous poser et qui permettront d'illustrer cela. Tout d'abord, quel est le biais ou la lacune de votre propre façon de penser que vous avez découvert le plus tardivement ?
Oula ! Plus tardivement Bon, je pense qu'un biais assez... Ouais, c'est plus quelque chose que j'ai appris en tant qu'enseignant. Je pense qu'un biais qui est assez reconnu, alors c'est pas tant quelque chose sur les fausses croyances, c'est plus un biais dans la vie de tous les jours, c'est qu'on a un peu cette tendance à projeter sur les gens ce qu'on sait. Je sais plus ça a un nom, mais je me rappelle plus exactement lequel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez appris un truc et que vous le connaissez très très bien, vous allez avoir tendance à penser que c'est assez familier aux gens en général et à partir sur des choses un peu plus... Donc par exemple, quand vous enseignez, vous vous dites « Oui, je ne vais pas expliquer ça, tout le monde le sait, je vais passer pour vraiment quelqu'un qui répète les trucs les plus basiques. » Et donc vous allez partir sur des trucs plus moins évidents, mais en fait, ça ne va justement pas marcher. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Ça, je crois que ça s'appelle « actor projection » en anglais. C'est l'idée qu'on a tendance à interpréter ce que les gens savent par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on sait déjà, ce qui crée une sorte d'écart. Mmh. Et c'est dur de se dire voilà, mais en fait il faut que je me rappelle moi comment j'étais quand j'avais aucune idée du truc, ce qui est vraiment un effort qu'on doit tout le temps faire quand on enseigne. C'est vraiment pas facile, c'est souvent des choses, des trucs que j'ai appris par exemple dans des interventions au grand public. Des fois j'ai pas le temps de parler beaucoup, par exemple passant la radio, puis je parle 10 minutes, 15 minutes, j'ai l'impression d'avoir expliqué vraiment un truc immensément trivial que tout le monde savait, puis les gens vous disent ah c'était quand même intéressant, puis on est là ouais vraiment. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui... c'est un biais qu'il y a énormément dans la vulgarisation. Je pense que beaucoup de chercheurs ou même de gens qui s'y connaissent ont du mal à vulgariser parce qu'ils veulent partir sur les trucs, tout de suite les nuances, les subtilités, des trucs plus compliqués. Et c'est dur de se remettre à la place de quelqu'un qui était vraiment novice, quoi. À quoi ça ressemblait cet état-là, quoi.
Et quelle expérience ou étude a le plus transformé votre compréhension de la pensée humaine ?
Alors, c'est dur de trouver une, il n'y en a pas une qui se tient à 10 000 mètres au-dessus des autres.
Peut-être la première qui vous mais qui vient à l'esprit.
La première qui vient à l'esprit, c'est quand j'avais commencé pendant ma thèse à travailler sur la morale, il y avait ces expériences par un psychologue qui s'appelle Jonathan Haidt. Des expériences qui sont discutables par ailleurs, mais qui répètent bien, avec cette idée que, en fait, quand on demande aux gens de justifier un jugement, par exemple un jugement moral, les gens vont donner plein de raisons, mais c'est pas forcément les raisons pour lesquelles ils ont jugé ça, en fait. Leur jugement leur vient automatiquement. Et après, quand on leur demande de justifier, ils vont inventer des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la raison pour laquelle ils pensent. Et une des leçons de ces études, c'était vraiment que les gens partent d'une impression, partent d'un sentiment que ça c'est bien, mal, juste, injuste, vrai, faux, puis après vont construire tout un truc autour pour justifier ça, et qu'une énorme partie de la réflexion humaine va être consacrée à justifier une réponse qu'on a déjà donnée plutôt qu'à examiner la réponse si elle est vraie, quoi. Je pense que ça marche assez bien dans la vie de tous les jours.
Et enfin, pour conclure, si vous aviez le pouvoir de changer une seule chose, de prendre une seule mesure dans le but de renforcer l'esprit critique de la population, laquelle serait-elle ?
Bonne question. À part éliminer tous les psychanalystes, non, je fais ça. Je pense que... alors voilà, peut-être que je vais partir là-dessus. Je pense qu'il y a... aussi bizarre que ça puisse paraître à première vue, j'ai l'impression qu'on a vraiment développé une notion de culture générale qui fait aucune part aux sciences. Mmh. Voilà. C'est comme on a l'impression que voilà, on valorise la culture générale, on a l'impression qu'il faut être cultivé, et il y a un peu cette séparation dans laquelle voilà, la culture générale, ça va être l'histoire, la philosophie, la littérature, et puis les sciences, c'est des trucs spécialisés, en fait, qui sont faits pour des métiers spéciaux, pour des connaissances spéciales, mais qui n'ont pas l'air d'être directement pertinentes pour les réflexions sur la vie de tous les jours. Mmh. Un peu comme s'il y avait un peu cette distinction entre voilà, la personne cultivée, c'est l'esprit humaniste, littéraire, et puis l'esprit scientifique, c'est technicien, c'est pas quelque chose qui est pertinent pour les délibérations morales, politiques, éthiques, et je pense que c'est une très mauvaise division. J'ai l'impression qu'il faudrait vraiment revenir à un cas où la culture générale qui est exigée de tout le monde, elle intègre à la fois les deux, quoi. Mais qu'on voit que les méthodes mathématiques, les méthodes scientifiques, les connaissances qu'on peut avoir en biologie, c'est pas des trucs un peu accessoires, et on peut être une personne complète et avec une culture suffisante pour discuter, comprendre le monde sans ces trucs-là, quoi. Je sais pas si ça fait sens, mais par exemple, si vous regardez par exemple même les formations des hommes politiques français, souvent on sent qu'il y a un manque de culture scientifique assez évident, quoi. De revenir à un cadre où l'idée, c'est que... j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu ce truc. Voilà. En même temps, on valorise énormément les sciences, on retire des heures dans l'enseignement aux sciences, en tout cas en Suisse, aux sciences sociales, à l'histoire, etc. Mais j'ai l'impression, en même temps, qu'il y a vraiment cette idée, il y a les trucs qui donnent du taf et qui donnent de l'argent et qu'on fait pour travailler, ça, les trucs scientifiques, puis après, il y a ce qu'on fait pour se construire et s'élever mentalement et spirituellement, et ça va être plus les trucs... littéraire, sciences humaines, et j'ai l'impression que, pour moi, il y a tellement de choses qui ont contribué à ma compréhension du monde, mais qui viennent, par exemple, des statistiques, de la biologie, etc., que ça me paraît une source de problèmes pour l'esprit critique. Mais quand on revient à la philosophie, je trouve aussi que, en tout cas en France, moi en Suisse, mais quand même, il y a une approche trop littéraire de la philosophie en général, quoi, où... On est plus sur le fait de réfléchir pour la beauté de la réflexion et moins sur l'idée de se dire qu'il y a des bonnes et de mauvaises façons de réfléchir et qu'on peut améliorer ça, quoi.
Et c'est drôle que vous ayez parlé en premier lieu des psychanalystes, parce que justement, un des seuls souvenirs qui me reste de la philosophie terminale, malheureusement, c'est le complexe d'Œdipe.
Eh oui, c'est ça. Alors au moins, en Suisse, c'est pas le cas, mais en France, ça reste assez présent. Moi, j'ai des enfants qui ont passé le bac, et je sais que leur prof de philo en terminale leur avait fait la moitié du programme via Freud, quoi. Mmh. Donc c'est triste de se dire que je pense que l'enseignement de philosophie, quelquefois, est un obstacle à l'esprit critique dans l'état dans lequel il est actuellement. Ouais.
On va conclure là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Florian Kova.
Merci.